Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de revenir parmi vous. J'ai pas trop l'habitude de dire ce qui se passe pour moi, donc juste en guise d'introduction et parce que ça va un petit peu servir le sujet. J'étais dans une église assez grande jusqu'à il y a un peu plus d'un an. Et puis le Seigneur m'a dit de... Alors j'étais en formation pastorale et tout ça dans cette église. Et le Seigneur m'a poussé à partir. Sans me dire où il fallait aller. Et il m'a juste dit de pas rejoindre une assemblée. Et puis, il y a un prophète français très, très connu qui me mentore, on va dire, dans le prophétique, et qui me dit, bouge pas, laisse venir, et le Seigneur va créer des nouvelles relations, et ça va enclencher des nouveaux projets. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et donc, j'ai un groupe d'intercession avec qui on est en train de mettre en place des soirées miracles et guérisons avec l'association AIMG, qui est une association suisse, et qui œuvre pour l'évangélisation au travers, comme on peut lire dans les actes, de la démonstration de l'existence et de la puissance de Dieu et de l'amour de Dieu au travers du miraculeux, de la guérison miraculeuse. Donc c'est une première œuvre dans laquelle je m'embarque avec d'autres amis sur Montpellier. Et c'est un projet qui se fait en inter-église, donc il y a aussi en même temps cette joie et en même temps cette difficulté de travailler avec d'autres chrétiens, d'autres églises. Et c'est aussi une joie, je pense, pour le Seigneur de voir ces enfants qui travaillent ensemble en dehors des boîtes qu'on peut faire. Et puis, il m'a aussi permis de rencontrer très récemment des personnes qui ont à cœur de monter une assemblée. Et donc, j'ai rejoint une église de maison. Donc, je me retrouve, on est à peine une dizaine dans un petit groupe et on ne sait pas ce que Dieu veut en faire. Et en fait, je me sers de ça comme introduction parce que je vais aborder des sujets pas forcément drôles. Le premier, c'est l'orgueil, et le deuxième, c'est l'humilité. Donc on n'a pas envie de s'entendre dire qu'on a le premier, on n'a pas envie d'être appelé à pratiquer le deuxième. Sauf que quand on lit la Bible, c'est toujours ça. Et en fait, j'étais donc en formation pour être reconnu ministère dans l'église. Et un ami prophète qui maintenant est connu mondialement dans la francophonie, me disait, vas-y, il faut jouer des bras, il faut prendre la place, montre ce que Dieu t'a donné, que tu peux apporter à l'Église. Et puis moi, ce n'est pas mon tempérament. Et si je l'avais fait comme ça, en disant, oui, des grands prophètes ont prophétisé sur mon appel et tout ça, et que je l'avais fait par moi-même, quelque part, j'étais en train d'essayer de prendre une place d'une manière humaine. Alors que le Seigneur dit, mais tranquille, quoi. On est tous des serviteurs de toute façon, donc qu'on soit appelé à un service particulier, ça ne donne pas plus de gloriole qu'autre chose. Par contre, prends le temps et je me retrouve dans une assemblée qui pour le moment est juste un petit groupe de maison, et en fait j'y suis bien. Et je ne suis pas en train de me dire mais oui, mais alors mon grand appel au ministère, en fait on s'en fiche. Et ce qu'il faut réussir à faire vraiment dans notre vie de chrétien, c'est pas de dire quelle est la place, le titre, la reconnaissance que Dieu veut que j'ai dans ce que je fais pour lui, mais c'est au contraire quel est mon cœur de serviteur pour les autres. Et c'est très important de réfléchir à cette notion de dans ma vie. Quelles sont mes intentions? Pourquoi est-ce que je fais les choses? Et comment je suis positionné par rapport à ce que Dieu demande? Demande non seulement de manière générique, générale, à tout croyant, mais aussi de manière spécifique. Et le proverbe 18, verset 12, dit « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Et j'aimerais travailler sur ce petit verset ce matin, l'humilité précède la gloire. Parce que je pense, et on va le voir dans les Écritures, nous sommes appelés non seulement à voir la gloire de Dieu, mais à porter la gloire. Et donc à vivre la gloire sur terre. Mais si on n'a pas cet objectif-là et qu'on a l'impression que c'est orgueilleux d'avoir cet objectif-là, on ne va finalement pas être les témoins que Jésus nous demande d'être. Mais si on veut viser des choses grandes, on va se dire, bah oui, mais je suis orgueilleux. Donc il y a quand même quelque chose de pas simple à comprendre. Et je vais commencer par traiter la question de l'orgueil. Un autre proverbe, chapitre 16, verset 18, nous dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Alors, je pense qu'on est tous d'accord ici pour se dire que l'orgueil, c'est mal. Ouais ? Non, quelqu'un dit « Oh non, c'est cool. » L'orgueil, c'est mal, c'est mauvais. Et donc, pour moi, je pense que le premier signe de l'orgueil, c'est l'égoïsme. Je n'ai pas été chercher dans la rousse et tout ça, mais on va prendre des exemples bibliques, quelques versets bibliques, pour comprendre c'est quoi l'orgueil. Et en fait, l'introduction à la Sainte-Seine va complètement dans ce sens-là. C'est réfléchir sur nous-mêmes et est-ce qu'on ne va pas se dire entre nous, moi je suis orgueilleux et moi je suis humble. En fait, ça ne marche pas comme ça. C'est qu'il y a des zones de nos vies où on a des comportements orgueilleux. Et des zones de nos vies où on a des comportements qui sont dans l'humilité. Et l'idée, c'est de se questionner et justement de se dire quelles sont les zones d'orgueil dans ma vie que je peux laisser là, ce matin en 2024 et que je ne récupère pas en 2025. Et quelles sont les zones où je peux grandir dans l'humilité. Et on va voir que la Bible nous dit l'humilité précède la gloire. Donc l'objectif, ce n'est pas un objectif orgueilleux de dire « je veux la gloire, donc je vais être humble », ça ne marche pas. Mais c'est de dire comment la Bible nous amène à vivre une humilité juste. On peut être orgueilleux en voulant faire du bien aux autres. On peut être orgueilleux en voulant aider les autres. Parce que si notre intention, c'est qu'on nous dise « waouh, toi tu es quelqu'un qui aide, toi tu es quelqu'un qui est bien », ben en fait, on est en train de nourrir notre moi, on est en train de nourrir notre ego. Donc on ne fait pas une chose bonne pour les autres, même si les autres sont aidés, tant mieux, mais on fait une chose bonne par nous-mêmes. Si on veut sauver tout le monde pour qu'on puisse nous dire de nous, super, il sauve tout le monde, ben en fait, quelque part, c'est de l'orgueil, ce n'est pas de l'humilité. Oh, il donne beaucoup aux autres. Ben oui, mais si l'attente, c'est qu'on dise, waouh, il est généreux, ben en fait, l'intention, le cœur n'est pas bon. Même si les actes paraissent bons de l'extérieur, le cœur est mauvais. Et qu'est-ce que Dieu veut faire tout le temps ? C'est de travailler notre cœur. Je n'ai pas pris beaucoup d'exemples bibliques, mais on peut en prendre beaucoup. Il y a un passage dans Ésaïe 14 qui parle en même temps du roi de Babylone, et en même temps, ça peut parler de Satan qui dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles, de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets des nues, et je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts et dans les profondeurs de la fosse. » Donc là, on voit vraiment l'application de ce principe-là, celui qui s'élève, en fait, va être abaissé. Celui qui est orgueilleux va subir la ruine. On peut penser aussi à Nebuchadnezzar, qui était un roi extraordinaire, qui a fini par terre en broutant de l'herbe. Là, on peut dire qu'il est passé de l'orgueil à la chute, à la ruine. Mais bon, on n'est pas tous des rois avec beaucoup de choses qui peuvent nous mettre en avant, sauf que on a notre petite vie qui fait qu'on a quand même des choses qui nous poussent à l'orgueil. Et on peut lire dans Marc 7, versets 20 à 22, Jésus dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. En fait, si notre cœur n'est pas purifié, si notre pensée n'est pas renouvelée, ce qui va être mauvais, ce n'est pas ce qui va venir sur nous, c'est vraiment ce qui va sortir de nous. Et donc c'est aussi cet aspect d'orgueil, c'est d'écouter ce qui vient de l'intérieur sans avoir été purifié. Et donc toutes ces choses-là, les pensées, l'adultère, les meurtres, bon, on se dit, tiens, on va quand même pas aller jusqu'au meurtre et tout, mais la fraude, le dérèglement, ça peut toucher beaucoup de domaines. Le regard envieux, la calomnie. En fait, si on écoute nos émotions, si on écoute nos désirs charnels, si on écoute nos envies terrestres, si on écoute notre corps, je suis fatigué, je me lève pas pour aller à l'église, finalement, on se retrouve à s'écouter soi-même, alors que, et ça c'est l'orgueil en fait, la définition de l'orgueil c'est « je m'écoute ». C'est quelque chose vraiment qui ressemble à l'égoïsme, ça se rejoint. Croire qu'on a raison. Des fois, certains se sentent supérieurs, ils se disent souvent « moi j'ai raison, les autres ont tort ». Mais en fait, c'est pour moi, si je résume l'orgueil avant de passer à la suite, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Et tout ce qui prend la place de Dieu, ça montre que finalement, notre être, nos désirs, notre chair, est orgueilleuse. Et j'aime dire une chose, pour expliquer ce qu'est l'enfer, c'est que l'enfer, c'est se retrouver pour l'éternité avec le Dieu qu'on a choisi. C'est aussi simple que ça. Et donc, je ne sais pas si vous avez entendu des témoignages de personnes qui ont vu, qui ont vécu l'enfer, où le Seigneur les a amenés à cette expérience-là. Et en fait, les personnes se retrouvent avec elles-mêmes. Et en fait, c'est un désastre. Parce qu'elles se rendent compte à quel point elles sont mauvaises, mais qu'elles ont choisi de s'écouter elles-mêmes. Et il n'y a pas de petit diablotin, il n'y a pas de flamme, non, c'est juste le néant, l'isolement, la solitude totale avec le Dieu qu'on s'est choisi. Et quand c'est soi-même, ça veut dire qu'on est seul avec soi-même. Et c'est le contraire de ce que Dieu veut pour nous. Lui, il veut la relation. Et donc, quand on vit dans l'orgueil, on est notre propre Dieu, finalement. Ça peut être tellement de choses différentes. C'est pour ça que je donne quelques exemples, mais c'est beaucoup plus large que ce que je peux prendre le temps de dire. J'en ai entendu certains qui disent « Moi, j'ai pas besoin de lire la Bible parce que le Saint-Esprit me parle. » Oui, le Saint-Esprit te parle. Mais en fait, Dieu te donne sa parole. Mais quel orgueil te pousse à dire que tu n'en as pas besoin ? C'est aussi simple que ça. Donc en fait, on peut avoir des pensées orgueilleuses dans tous les domaines et surtout dans le domaine spirituel. Et pour confirmer un peu ce que je vous dis, parce que je ne dis pas que n'importe quoi, Jérémie 13,15 nous dit « Écoutez et prêtez l'oreille, ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. » Et l'orgueil commence par le fait de ne pas vouloir écouter Dieu. Combien il y a de gens, alors nous on est ici ce matin dans une église, parce qu'on sait qu'il faut écouter Dieu. On a déjà fait une étape importante. Mais beaucoup dans le monde se disent, mais j'ai pas besoin de Dieu. C'est un orgueil terrible. Maintenant, on peut se dire aussi, dans nos vies chrétiennes, il y a des choses sur lesquelles on peut faire des choix en se disant, j'ai pas besoin d'écouter Dieu, j'ai pas besoin de lui demander, j'ai pas besoin. Et là, c'est de l'orgueil. Écoutez et prêtez l'oreille car l'Éternel parle. Ça, c'est important. La deuxième chose qui est plus grave, c'est d'avoir écouté Dieu. Et donc, on connaît sa volonté et on choisit de ne pas la faire. Et ça, de partout, hein, on a les règles de vie que Dieu nous a données. Et il y en a beaucoup qu'on peut avoir la tendance à... on passe outre, on s'écoute soi-même. Néhémie 9, au verset 16, dit « Nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Donc, cet orgueil qui dit, mais je connais bien ce que Dieu veut et je ne veux pas le faire, c'est quelque chose qui, la Bible le dit, est encore plus grave que le fait de ne pas connaître, finalement. Parce que celui qui ne connaît pas, il va faire des choix qui sont peut-être mauvais, mais il n'est pas dans la rébellion. Parce que quand on sait et qu'on fait ce qu'il faut, le contraire de ce qu'il faut, ou alors qu'on connaît les lois de l'Éternel et qu'on ne les respecte pas, c'est la rébellion, et ça c'est le péché primordial de Satan. Donc il faut éviter de tomber dedans. 2 Pierre 2, les versets 19 à 22, ça nous dit « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Je trouve ça incroyable. C'est court et on a tout compris au problème de l'humanité, finalement. Ce qui triomphe de moi, c'est ce qui me rend esclave. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de s'y détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. La truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Alors si nous, chrétiens, on garde l'orgueil, on est pire que des non-chrétiens. C'est ce que Pierre est en train de nous dire. Parce qu'on connaît la vérité et qu'on choisit de ne pas la suivre. Alors, je ne vais pas citer tous les versets parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais comme on a déjà lu, Dieu résiste aux orgueilleux. Quand on est dans cette situation-là de dire « je ne veux pas écouter Dieu » ou « j'écoute Dieu et je ne veux pas lui obéir », on est dans une situation où Dieu ne peut pas nous laisser nous élever, mais il va abaisser les orgueilleux, comme il dit en 2 Samuel 22, ou d'autres versets encore dans Ésaïe 2, « L'homme orgueilleux sera humilié, le hautain sera abaissé. » Et dans Psaume 31, verset 23, « Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. » Donc on est face à un choix et on connaît la fin de l'histoire en fait. On connaît à chaque fois la fin de l'histoire par rapport à notre comportement. On sait qu'est-ce que Dieu va faire. Et Dieu ne va pas rabaisser l'orgueilleux par méchanceté, mais c'est parce que celui qui s'élève de par lui-même, finalement, a besoin de comprendre quelle est sa vraie identité et qu'il n'est pas supérieur à Dieu, il n'est pas supérieur aux autres hommes. Alors, la deuxième partie de mon message concerne l'humilité. Et il ne faut pas avoir une mauvaise vision de ce que c'est l'humilité. L'humilité n'est pas l'humiliation. Parce qu'on peut avoir tendance à s'auto-flageller ou tendance à dire, ben voilà, si je vis dans la pauvreté, le dénuement, ça va montrer à quel point... je ne sais pas, j'aime Dieu parce que voilà, je mets les choses spirituelles en avant, etc. Enfin, en fait, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir de l'argent ou pas d'argent, d'être connu ou de ne pas être connu. C'est encore une fois une question de cœur. Proverbe 22, je reviens encore, il y a quand même pas mal de proverbes sur le sujet, au verset 4, dit « Le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire, et la vie. » Ben, moi, je signe pour ça, en fait. De vivre dans la simplicité et dans la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire on va écouter Dieu, on va faire ce qu'il nous demande, c'est le fruit va être la richesse, la gloire et la vie. On va développer un petit peu après ce que c'est la gloire. Mais par rapport à l'humilité, il y a encore quelques versets dans le Nouveau Testament. Philippiens 2, 3 nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Donc là, on sait déjà quel positionnement on prend par rapport aux autres. C'est assez clair et puis c'est, je pense, suffisamment connu de tous pour ne pas trop perdre de temps sur ce verset-là. Et Pierre donne quelques indications supplémentaires dans 1 Pierre 5. « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Et c'est répété à nouveau, « Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Alors, quelques exemples bibliques. On a évidemment David, qui n'a pas cherché à prendre la place. Il a été oint roi et il a mis des années et des années avant de devenir roi. Et il n'a pas voulu toucher à Saül, qui était le roi, et il a été persécuté par Saül. Il aurait pu réclamer sa position, il aurait pu chasser Saül militairement, humainement, pour prendre la place, et il a eu l'humilité d'attendre le temps. Et souvent, l'humilité est quand même en lien avec la patience. Le fait de dire... Dieu peut avoir appelé à quelque chose, il peut avoir donné des paroles prophétiques, des choses qui vont pouvoir nous arriver à nous, à notre assemblée, à notre pays. Mais l'humilité, un signe de l'humilité, c'est la patience en attendant l'accomplissement des promesses de Dieu. Et évidemment, notre meilleur exemple est Jésus. Et en Philippiens 2:8, on lit « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort ». Et même jusqu'à la mort de la croix. Et donc, ce verset nous montre que l'humilité que Jésus a présentée, c'est le fait d'être obéissant, tellement obéissant qu'il ne veut même pas retenir sa propre vie, en fait. Tellement humble qu'il dit « mais ma vie n'a pas d'importance par rapport au projet de Dieu ». Et quand les disciples de Jésus vont vraiment vivre cette dimension-là, je pense que là, comme la Bible nous le dit et comme on va le voir, on va pouvoir grandir dans la réalité de la gloire de Dieu. L'humilité, ce n'est pas la passivité. Des fois, on dit « moi, je fais rien, je suis tranquille, je suis humble ». Dieu ne nous demande pas de ne rien faire. Et quand on voit Jésus, il était très actif. Il n'a pas arrêté de parcourir les villages, de témoigner, d'enseigner. Donc ce n'est pas la passivité. Ce n'est pas non plus de voir petit. Ce n'est pas parce qu'on a des petits projets qu'on est humble. On peut avoir des grands projets et finalement les faire avec beaucoup d'humilité. Ce n'est pas non plus manquer d'ambition. Ça se rejoint, mais le fait d'être ambitieux... Moi, je suis ambitieux pour le royaume de Dieu, vous voyez ? J'ai envie que Dieu soit connu, j'ai envie qu'il vraiment y ait un développement. Donc il peut y avoir cette ambition pour le royaume de Dieu et de faire les œuvres de Dieu. Jésus, il avait l'ambition, c'était d'être le sauveur du monde, c'est quand même, c'est pas rien. Mais il a tout fait avec humilité, parce qu'il ne voulait pas en retirer de gloire pour lui. Il a été glorifié par le Père, il ne s'est pas glorifié lui-même. Et donc nous, on peut avoir de l'ambition, dans des projets humains, dans des projets caritatifs, dans des projets d'église, pour le royaume de Dieu, pour les œuvres de Dieu, pour les choses que Dieu demande. Et puis, merci Seigneur aussi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose aussi de Dieu. Il nous demande aussi de créer de la richesse et de partager la richesse. Donc on peut avoir des grands projets tout en gardant un cœur humble. L'humilité, c'est pas l'anonymat non plus. On peut être, comme je donnais cet exemple, on peut être très connu et avoir vraiment un cœur humble. C'est pas parce que notre nom est partout qu'on est supérieur à la personne à côté qui n'est pas connue, en fait. Donc c'est vraiment un état d'esprit. Et c'est faire passer le Père et sa volonté avant notre propre vie. C'est ça qu'on voit finalement dans l'exemple de Jésus. Et c'est Dieu ensuite qui élève ceux qui ont ce cœur humble selon sa propre volonté à lui, parce qu'on ne peut pas faire du chantage à Dieu en disant « Regarde, je suis humble, maintenant il faut m'élever ». Ça ne marche pas non plus, sinon on retombe dans l'orgueil. C'est vite fait quand même. Hein. On va lire un passage dans Jacques, chapitre 4. Les versets 4 à 10. Alors, ça m'est arrivé qu'on me reproche d'être un peu dur dans des prédications en disant les choses un peu... Mais bon, là je lis le texte biblique. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles ». C'est quand même répété un bon nombre de fois. Hein. Verset 7 « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous ». Alors ce verset, on le connaît, mais finalement, le verset d'avant relie à l'orgueil. Et donc c'est quand même quelque chose d'important à creuser, parce que Dieu résiste aux orgueilleux et après on nous demande de nous soumettre à Dieu. Et cette humilité de se soumettre à Dieu, ça fait quoi ? C'est que la suite du verset, c'est que on résiste au diable. Et que finalement, l'orgueil est quelque chose qui vient du diable, qui est en nous, dans notre chair, mais qui est attisé par le diable. Et quand on arrive à rester dans l'humilité, qu'est-ce qu'il fait ? Le diable ? Ben, il fuit. Parce qu'il dit, mais je ne peux pas l'atteindre. En fait, je ne peux pas lui donner une carotte. Je ne peux pas lui dire, tiens, je vais te donner d'être connu, d'être riche, d'être ceci, cela. Ce qu'on fait, non. Moi, je vais prendre ce que Dieu me donne. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et ensuite, il dit, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Quand même, de loin. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Ah, mince. Moi, je croyais que voilà, vivre avec Dieu, c'était justement quand je suis triste, il me donne la joie. Quand j'ai des difficultés, il m'aide. Et là, il dit que votre rire se change en deuil. C'est pas simple. Et verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Bah, on a bouclé la boucle. Il y a vraiment cette histoire de venir transformer nos cœurs, purifier nos vies, sortir du péché et de rester dans la soumission à Dieu. Et tout ça fait que... Alors, pourquoi il est parlé de deuil et de tristesse et de larmes ? C'est parce que, en effet, ça peut nous coûter d'abandonner les choses du monde, ça peut nous coûter d'abandonner nos zones d'orgueil, ça peut nous coûter de passer dans l'obéissance à Dieu, ça peut nous coûter d'abandonner des choses qu'on avait et pour on pouvait être connu et puis on se retrouve avoir cette impression d'être rétrogradé. Je parlais avec un ami récemment, quelqu'un de la famille, et en fait, son patron, avant, était directeur d'une très très grosse usine, et il gérait des centaines de personnes, des millions et des millions d'euros, et cette personne est revenue en France, et finalement, elle s'est mise à gérer une maison d'édition chrétienne. Et donc, du truc énorme qu'il gérait avec tout ce que ça pouvait apporter comme bénéfice, et de revenir en termes de salaire, de notoriété, de tout ça, quelque chose d'extrêmement humble. Mais finalement, ça montre un cœur qui est prêt simplement à servir et pas à chercher à dire « oui, mais moi j'étais là, et pourquoi je serai là ?» Donc c'est des exemples concrets. De dire ben, je suis ce que le Seigneur me dit de faire. Et des fois, je vais être un peu à la lumière, puis des fois, je vais être un peu dans l'ombre. Ce qui compte, c'est que ben, on témoigne de Jésus. Donc ce passage dans Jacques nous montre que si on cherche, si finalement on aime le monde, puisque c'est un terme qui est utilisé aussi dans la Bible, si on aime le monde, c'est quelque part de l'orgueil. Le monde dans le sens, le monde dans sa nature pécheresse. C'est-à-dire les plaisirs païens, on va dire, voilà, la recherche de richesses, les ambiances un peu païennes, les lieux de fête où il se passe que des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Voilà, si on aime toutes ces choses, alors qu'elles sont un contre-témoignage, alors qu'elles vont à l'encontre des valeurs biblique et divine, et bien on est en train de vivre une zone d'orgueil dans nos vies. Si on résiste à Dieu aussi, en ne faisant pas ce qu'il nous demande, on est dans l'orgueil. Et l'humilité, c'est finalement refuser de suivre les appels du diable, d'abandonner nos péchés, de purifier nos vies. Et en général, c'est pour ça aussi qu'il est parlé dans le verset de Jacques de deuil, de larmes et de tristesse. Ça passe par la repentance. Un moment où on se dit, ça, je vois que Dieu met la lumière sur une zone d'orgueil dans ma vie et il faut que je la traite. Et donc ça se fait souvent à genoux pour dire Seigneur, pardonne-moi, pardonne ma zone d'orgueil, pardonne ce qu'elle m'a fait faire, ce qu'elle m'a fait dire. Et de renoncer à ses comportements ou à ses pensées ou tout ce que ça peut faire et provoquer en nous. De renoncer en acceptant de suivre pleinement Jésus avec humilité. Et c'est là, quand on est à genoux devant Dieu, qu'il va nous dire « ton cœur est prêt ». Ton cœur est prêt pour que tu puisses rentrer dans des choses qui vont être glorieuses. Parce que si tu rentres dans des choses glorieuses sans être prêt, tu vas te casser en fait. Et on voit souvent ça, malheureusement, et ça arrive, et on en a des témoignages dans certains ministères où les choses grandissent, les choses vont bien, mais finalement les cœurs ne sont pas suffisamment préparés. Et puis l'orgueil arrive, et puis les problèmes arrivent avec. Et il vaut mieux être patient et se laisser travailler en profondeur. Mais par contre, l'objectif de Dieu, ce n'est pas de nous laisser inutilisés, on va dire, invisibles, inutiles. Au contraire, il veut qu'on rentre dans des projets qui sont glorieux parce qu'on porte sa gloire. Parce qu'il nous appelle à être actifs pour son royaume. Et son royaume, c'est ce qu'il y a de plus glorieux dans l'univers. Donc, apprenons à nous repentir, soyons promptes à nous repentir et questionnons Dieu. Quelle est ma zone d'orgueil? Quelle est ma zone d'orgueil? Et du coup, de passer par cette étape de repentance. Alors, je vais terminer par le plus enviable, on va dire, c'est la gloire. Jacques 10, qu'on a lu tout à l'heure, nous dit « Il vous élèvera ». Qu'est-ce que ça veut dire, être élevé par Dieu? Qu'est-ce que c'est cette gloire de Dieu? On pourrait faire des tas d'études bibliques pour creuser le sujet. J'ai juste pris quelques points. En Exode 33, on voit Moïse qui parle avec Dieu et qui dit « Fais-moi voir ta gloire ». Et qu'est-ce que fait Dieu? L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Dieu dit, « Ok, je te montrerai ma bonté. » Et là déjà, on se rend compte que notre perception de ce que c'est la gloire, elle peut être faussée. Et la deuxième chose que Dieu répond à Moïse, c'est « Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel ». Donc on a une impression que la gloire, c'est des palais, c'est ça brille. C'est... Et finalement, on se rend compte que Dieu lui-même aborde sa propre gloire avec une certaine humilité. Il dit « Ce qui compte, c'est ma bonté ». C'est quand même fou. Ce qui compte, c'est mon nom. C'est de finalement connaître Dieu et qui il est pour nous, quoi. Quand Élie aussi va faire une rencontre avec Dieu, Dieu se présente dans un murmure doux et léger. Ça, c'est dans 1 Roi 19. Il y a eu la tempête, il y a eu plein de trucs avant qui ont fait du bruit. On s'est dit, oh, il y a la gloire. Ah non, Dieu n'est pas là-dedans. Dieu, il était dans le murmure doux et léger. Et donc, on se rend compte que finalement, la gloire, où humainement, on a une image de quelque chose de complètement incroyable, ça commence par quelque chose de doux, de léger, de bon. Et finalement, si nous, déjà, on commence par avoir cette manière d'être, on commence déjà à porter quelque chose de la gloire de Dieu. Jean 17, 22, Jésus dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Et là, on voit que vraiment, Dieu désire partager sa gloire. Il a glorifié Jésus et Jésus dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » C'est quelque chose qui se partage. Alors on va voir comment. Jésus a été glorifié. Moi, on voit le Saint-Esprit qui vient au baptême et puis le Père qui dit bah, « Celui-ci, c'est mon fils ». Il a été glorifié aussi lors de la sanctification. Dans la résurrection est aussi une glorification de Jésus. On parle de l'aspect terrestre. Après, la glorification céleste, c'est encore plus incroyable. Mais ce qui a été une gloire de Jésus, au-delà de l'humilité qu'on doit prendre comme exemple, c'est ses œuvres. Ses œuvres qui montrent la bonté de Dieu. Parce que quand il va guérir tous les malades, quand il va délivrer les captifs, ceux qui sont possédés, ben c'est encore par bonté, par amour. Et donc Jésus a transmis cela. Il a transmis à ses disciples cette gloire qui est d'aimer et d'exprimer la bonté, mais aussi de le faire avec puissance. Et Jean 14, 12 dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Donc il y a cette transmission que Jésus a faite envers les disciples, de dire ben, « Voilà, vous allez porter mon amour, ma bonté, mais aussi ma puissance et vous allez faire des choses même encore plus grandes que ce que j'ai pu démontrer sur terre. » Parce qu'on va le faire, nous, avec le Saint-Esprit et avec l'Ecclésia, avec l'Église, qu'il se construit. Et puis, il y a ce verset connu aussi de 2 Corinthiens 3, 18, qui nous dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Et donc, ça veut dire que notre gloire, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Notre gloire, elle ne vient pas de la réussite, de la notoriété, ce n'est pas des critères terrestres. Notre gloire, c'est de ressembler à Jésus-Christ, mais en tout point, dans son humilité, dans son amour, dans le don de sa vie, et aussi par la démonstration de qui est Dieu dans sa puissance surnaturelle. Donc notre gloire, selon Dieu, se mesure au don de nous-mêmes, au final. Quand, dans l'Ancien Testament, Salomon a construit le temple, avant que la gloire de Dieu vienne demeurer dans le temple, il y a eu la construction, il y a eu la consécration du temple. C'est C'est des images qui montrent ce qu'on doit vivre dans notre propre vie, vraiment, de construire nos vies en Dieu, d'être consacrés à Dieu. Et David, comme je disais tout à l'heure, sa gloire en tant que roi est venue après avoir vécu les persécutions par Saül. La gloire de Jésus est venue après ses souffrances et sa mort à la croix. La gloire de Paul est venue après qu'il ait vraiment abdiqué de son ancienne manière de vivre, de voir les choses, et qu'il a donné toute sa vie à Jésus. Il a accepté de subir toutes les épreuves et quasiment de mourir plusieurs fois. Et puis Étienne, le Étienne biblique, qui voit la gloire de Dieu, à quel moment ? Après avoir prêché, il n'a pas voulu se taire. Quand on lui a dit de se taire, il a voulu vraiment proclamer qui est Jésus. Et puis finalement, en se faisant lapider, il voit et vit la gloire. Donc on peut, je pense, en tirer la conclusion que on peut difficilement représenter, nous, maintenant, la gloire de Dieu en restant dans le confort. C'est à minima. Il faut accepter quelques petites difficultés, non seulement parce qu'on doit travailler sur nous-mêmes, se débarrasser de notre nature charnelle, mais aussi parce que, en tant que représentant de plus en plus proche de qui est Jésus-Christ, il y a aussi l'ennemi qui va vouloir, comme il a voulu faire avec Jésus, empêcher qu'on soit représentant actif de la gloire de Dieu sur terre. Et Paul nous dit en Philippiens 3:8, en parlant de toutes les choses qu'il avait avant sa conversion finalement, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Là, il y a cette humilité de Paul, qui était quand même quelqu'un de bien placé, avec beaucoup de connaissances, et qui pouvait avoir vraiment un bel avenir dans ce qu'il vivait. Et il a abandonné tout ça pour suivre Jésus. Et il dit, mais tout ça, en fait, c'est rien par rapport au fait d'être témoin de Jésus-Christ, même au travers des difficultés qui peuvent venir avec le fait d'être ce témoin actif. Là, on voit cette humilité qui mène à la gloire. Et avant de conclure, Jean 17, 26 nous dit « Je leur ai fait connaître ton nom ». C'est Jésus qui parle. Comme Dieu avait dit à Moïse, Moïse dit « Montre-moi ta gloire » et Dieu dit « Je te montrerai ma bonté, je te ferai connaître mon nom. » Et là, Jésus dit « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Et il y a ce lien encore de l'humilité et de la gloire en relation avec le fait de connaître Dieu, de connaître qui il est. Et finalement, Jésus qui révèle le Père et nous, nous révélons Jésus. Et tout ça, ça amène sur nous une gloire qui est, selon les critères célestes, à laquelle Dieu nous appelle. Jésus a révélé son identité céleste par les miracles, ça rendait gloire à Dieu. Et nous, on le révèle aussi en montrant sa puissance. Et encore un verset qui est connu, mais où on peut faire encore ce lien, c'est dans Actes 3, verset 6. Pierre dit il y avait un paralytique, et Pierre dit à ce paralytique, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et là, il ne dit pas, « Ouais, alors attends, moi j'ai un pouvoir spécial et je vais faire un truc pour toi. » Il dit, « Moi, je suis rien, j'ai rien. Par contre, Jésus-Christ peut faire quelque chose pour toi. » Et la gloire vient. Ce paralytique guérit miraculeusement, instantanément, et il témoigne de ce que Jésus a fait pour lui. Donc en fait, cette humilité de Pierre est un exemple où finalement on peut vivre des choses glorieuses comme ces miracles-là, mais dans l'humilité. C'est là que le cœur est important, parce que on est appelé à vivre des choses qui sortent de l'ordinaire, puisqu'on a un Dieu qui est au-delà de l'ordinaire, mais on peut le faire avec cette humilité qui nous est présentée, à laquelle on est appelé tout au long des Écritures. Je prendrai un dernier passage qui est dans Jean 17 à nouveau, quelques versets avant, versets 20 à 23. Et Jean 17, en fait, c'est Jésus qui prie Dieu. C'est vraiment un chapitre vraiment fort, où on voit Jésus qui prie le Père par rapport à ce qu'il demande aussi pour ses disciples. Et il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Il parle de nous, là. Toutes ces générations qui ont cru au travers des paroles des apôtres et des disciples qui nous ont précédés. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il y a tout cet aspect de relation. Nous sommes en Dieu, Dieu est en nous par le Saint-Esprit, qui fait que nous pouvons être des témoins, porter suffisamment la gloire de Dieu pour que le monde croit en Jésus-Christ. Et Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est quand même assez fou, ce lien que Jésus fait de la gloire et de l'unité. Et là aussi, on pourrait faire une étude biblique sur le sujet. Pour revenir simplement sur les versets qu'on a vus, le fait de connaître son nom, de connaître qui il est, c'est cette manière d'être en relation avec lui, d'approfondir notre lien et finalement d'être toujours plus, de vivre toujours plus en Dieu et aussi de laisser toujours plus Dieu vivre en nous. Et verset 23, « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » C'est ce à quoi on est appelé. C'est un peu un temps de réflexion et peut-être d'appel à se positionner ce matin par rapport à cette question de où sont mes zones d'orgueil, de se laisser emmener à la repentance par Dieu et de laisser grandir une humilité, mais une humilité saine. Pas de dire mais je suis petit, je suis rien et je ne sers à rien, et etc. C'est une humilité qui nous fait grandir. Parce que c'est une humilité qui nous permet de grandir en Dieu, de ressembler toujours plus à Jésus et d'être élevé par Jésus et d'être élevé par Dieu au moment où il trouvera opportun qu'on puisse rentrer toujours plus dans le service de son royaume, dans la manifestation de sa gloire. Et je voulais terminer avec cette pensée prophétique qu'on va vraiment en 2025 vivre des temps glorieux, des temps de manifestation du royaume de Dieu comme il n'y a jamais eu. Parce que Dieu veut se révéler, Dieu veut déployer son royaume, Dieu veut aller sauver les perdus, Dieu veut aller délivrer les perdus, et que nous soyons tous là en tant que serviteurs de Dieu, dans l'humilité mais aussi dans la gloire qu'il met sur nous, des témoins efficaces pour son royaume. Et j'avais juste cette phrase pour l'église du Colombier, je pense que Dieu m'a mis à cœur, où il dit « Cette église est restée humble et elle va voir la gloire de Dieu. » Parce qu'il n'y a pas eu ce cœur à se mettre en avant. Il n'y a pas eu cette recherche de briller de manière artificielle. Mais il y a eu cette humilité de rester dans la recherche de la face de Dieu. Et que c'est ça qui compte pour Dieu le plus. Et qu'il va donner, dans les temps qui viennent, aux chrétiens qui ont vraiment suivi avec humilité la recherche de son cœur, de vivre des temps glorieux. Et je vous invite à accepter les missions de Dieu, les appels qu'il va faire avec simplicité dans chacune de vos vies, mais aussi en communauté, pour rentrer dans des nouvelles œuvres qui vont avoir des dimensions glorieuses pour son nom. Je vous invite à vous lever et puis on va prendre ce petit temps d'introspection, d'écoute de Dieu, reprendre ce chant qui nous amène à glorifier Dieu et à se mettre à proclamer que toute gloire lui revient, mais en sachant qu'il nous la partage. Il nous la partage et il veut nous faire avancer dans ce chemin d'humilité et de gloire qu'il a prévu. Seigneur, merci. Merci pour ta bonté que tu nous révèles. Merci pour ton nom que tu nous fais connaître. Tu veux que nous soyons des enfants, sachant que tu es un Père toujours accueillant et que tu nous aides, en bon papa que tu es, à nous défaire des mauvais choix, des mauvaises décisions, des mauvaises manières de penser. Seigneur Jésus, tu viens pour nous aider à enlever nos vieux habits. Et tu veux nous revêtir d'habits de gloire, d'habits resplendissants pour que le monde voit que nous soyons la lumière, pour que Jésus soit glorifié. Seigneur, je veux me mettre à genoux parce que c'est là que ça commence. Au pied de ta croix, Seigneur, je demande pardon pour toutes les zones d'orgueil qui restent en moi et que je te prie de m'aider à éliminer totalement, Seigneur. Et je prie devant mes frères et sœurs pour consacrer mon année 2025 à chercher ta face et à me laisser toucher par ton humilité, Jésus, par suivre tes plans parfaits pour ma vie, pour la vie de ma famille, pour la vie de ton Église. Et Seigneur, je te demande pas de me montrer ta gloire, mais je te remercie par avance, parce que c'est une promesse que tu nous fais, que quand on se met à genoux devant toi, qu'on veut ressembler à Jésus-Christ, bien nous allons porter ta gloire.